Les Gones.
Une émission sur Lyon.
Présentée par Thomas Lacombe
et toute sa bande.
Bonjour et bienvenue, chers auditeurs.
Ta gueule, Lacombe. Eh oui, chers auditeurs, c'est le 16e numéro des Gones, et si l'on garde l'essentiel, actu, sortie, associatif à Lyon, sachez que votre programme habituel ne vous sera pas présenté par le tsarevitch Thomas Legrand. Pourquoi ? Parce que c'est la révolution. Thomas Tomajevitch, voici venu le mercredi rouge où tu as été renversé. Toute l'année, on m'a répété que j'étais la dictatrice, la despote, la petite mère des peuples de Transistor. Eh bien, j'ai fini par me conformer à ces injonctions et par te renverser. Enfin, je deviens la soviète suprême du Parti communiste de la République socialiste des Gones. À moi le pouvoir, à moi les cœurs de l'armée rouge, à moi la moustache et à moi les soutiens-gorge en bâche de camion comme au glorieux temps de la Chine de Mao. Vive la révolution! En fin d'émission, chers auditeurs, nous recevrons tout de même une association soupçonnée de libéralisme, de consumérisme et de traîtrise à la mère patrie. Il s'agira de l'UFC Que Choisir. En attendant, pour faire la révolution, je me suis entourée d'un tout nouveau gouvernement, un gouvernement restreint. Une camarade fenote, ministre des Sports, de la Culture et du Ravitaillement. Pourquoi ? Parce qu'à force de passer dans les Gones, elle deviendra compétente dans tous ces domaines. Oui, moi j'y crois. Marie-Ève.
Oui, je te suis, Marie.
Une camarade fenote qui se prenait naguère pour la noble Anna Karenine et qui a retourné sa veste, mais en gardant la chapka et les bottes fourrées, pour devenir première secrétaire du parti, Mathilde.
Bonjour Marie.
Et puis il y a les Gones de Provins qui sont absents et que l'on embrasse. Romain d'abord, notre correspondant sportif dont tu liras le billet tout à l'heure, Marie-Ève. Et puis Thomas surtout. Et oui, chers auditeurs, je peux bien vous dire la vérité, ou comme on dit chez moi, la pravda. L'absence de Thomas n'est pas due à mes velléités autocratiques, non, non. C'est juste que quand on prend un train à Perrache à 8h36 alors qu'on a un enregistrement à 10h à l'ENS, il y a nécessairement un moment où ça pose des problèmes. Que voulez-vous, on est doué ou on ne l'est pas.
C'est alors, le décalage horaire entre Moscou et Lyon, ça doit être ça.
Alors oui, je peux bien le dire, Thomas.
Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice.
Je te remplace quand même avec plaisir et je t'embrasse, Thomas, oui. On embrasse aussi Florent, qui est toujours à Paris. Allez, trêve de moquerie, les nouvelles nouveautés de Lyon approuvées par le ministre de l'Information et de la Propagande nous appellent. Nouvelle nouveauté donc, l'actualité locale va nous fournir l'occasion de jouer, et aujourd'hui je ne vous raconterai pas l'histoire de Lyon, car du passé faisons table rase, et puis nous irons voir si les athlètes de notre bonne république socialiste triomphent de l'adversaire impérialiste et antidémocratique. Mais avant cela, Mathilde prend le micro et nous livre son point de vue sur l'actualité nationale.
Merci Marie. À la une de l'actualité nationale cette semaine, et comme chaque année, le 1er mai est l'occasion pour le premier parti de France d'envoyer se faire foutre tous les syndicalistes, et avec eux tous les acquis sociaux qui profitent aux putains d'assistés qui font crouler la France, et aux électeurs FN, et à tout le monde en fait. Un grand moment de démocratie où on célèbre cette figure emblématique de la souveraineté nationale, notre Jeanne d'Arc, en tabassant des journalistes et des militantes féministes un peu volages qui exhibent honteusement leur poitrine. Certains diraient que pour un parti qui qualifie l'avortement de confort et qui souhaite en limiter l'accès, récupérer cette figure de femme combattante et donner des leçons de féminisme à ses militantes est assez gonflé. Certains diraient que célébrer une petite pépette qui entend la voix de Dieu pour un parti qui emmerde tout le monde avec la laïcité, c'est complètement débile, mais on fait rien de mieux pour se faire remarquer et c'est pas comme si les mouvements syndicaux leur volaient la vedette. On reste sur la laïcité avec cette petite effrontée d'un collège de Charleville-Mézières qui s'est vu interdire l'accès à son collège par la directrice de l'établissement. La raison de cette suspension ? La petite merdeuse aurait-elle harcelé un camarade grassouillet sur les réseaux sociaux? Aurait-elle lancé un business clandestin de piercing au trombone dans les toilettes du gymnase? Il n'en est rien. Mais les faits qui lui sont reprochés sont tout aussi graves. L'adolescente se serait présentée en cours vêtue d'une jupe recouvrant l'intégralité de ses jambes. Et oui, notez mesdames que si vous êtes musulmane et d'origine maghrébine, une jupe longue ce n'est pas un look printanier d'inspiration coachellienne, c'est un signe ostentatoire qui nuit gravement aux valeurs de la laïcité promue par notre république. Si vous êtes blanche, comme notre pucelle d'Orléans, ne vous réjouissez pas trop vite. En effet, selon une experte sur la question, il faut des vêtements adaptés à la morphologie. La jupe longue, les filles, si vous ne faites pas 1m75, c'est interdit. Une commission d'enquête parlementaire vise à généraliser cette interdiction à toutes les rebeux, petites grosses rebeux et adolescents de sexe masculin en manque de virilité. Les associations de parents d'élèves mettent le gouvernement en garde contre une réglementation aux effets vicieux. Il ne s'agirait pas qu'un nivellement par le bas du style des élèves mène à une trop large démocratisation du legging. International. Si vous voulez de bonnes chroniques politiques, attendez le retour de Florent. Moi, je ne suis que l'atout sexy de l'équipe et en bonne cruche que je suis, pas de rafale qatari ou d'émeute baltimorienne. Bah oui, c'est trop polémique, je préfère évidemment vous parler de princesse. Et, véritable conte de fées en direct de la vulve de son Altesse Royale, la Duchesse de Cambridge, une mioche voit le jour et condamne la moitié des journalistes en activité à feindre l'émerveillement. Quel sera le nom donné au Royal Baby, s'interroge le Huffington Post. Où est passé Lupo, le royal caniche de la duchesse, disparu des photos officielles de la famille royale depuis de nombreux mois, se demande Closer. Sauvé par l'éclatement de la poche des eaux, je n'aurai donc pas à analyser pour vous la campagne des élections générales britanniques qui se tiendront le 7 mai prochain. Aucun Qatari, hymen de Lorraine ou caniche n'a été blessé durant la réalisation de cette chronique. Mathilde Orbaissant, en direct pour Transistor.
Merci Mathilde. Allez, nous revenons à Lyon, chers auditeurs, qui n'êtes absolument pas contraints de nous écouter, nous sommes en démocratie. Et j'ai une première question. Un site internet lyonnais a été piraté à la fin du mois d'avril. De quel site s'agit-il?
Alors, le site de l'Université Lyon 2.
Non, alors ça a déjà été piraté.
Oui, ça a déjà été piraté.
C'est une question, effectivement, mais non, ce n'est pas
le site de Lyon 2. Tous les sites lyonnais se font pirater.
Ouais, c'est terrible.
C'était un site aussi académique que celui de l'Université Lyon 2?
Alors, c'est un site institutionnel, mais pas académique.
Un site du style Only Lyon, là, on ne sait pas vraiment à quoi ils servent, mais...
ça sert à trouver des plans sortis pour la fin de l'émission. C'est quand même l'utilité principale.
Alors, c'est pas le site du Petit Paumé
Non.
Qui a été piraté par des vengeurs culinaires?
Alors, c'est un site internet, c'est une institution culturelle. Et c'est un site qui a été piraté par un groupe de hackers qui se désigne lui-même sous le nom d'Anon Coders. C'est un peu comme Anaconda, mais avec les lettres pas dans le bon ordre. Et ce groupe de hackers, c'est un groupe de cyberterroristes anti-israéliens. Mais je ne sais pas si ça vous aide pour la question.
Ah bah, j'aurais dit avec les anacondas, peut-être contre le site du Parc de la Tête d'Or ou un truc comme ça.
Vraiment, chercher du côté culturel.
Parc de la Tête d'Or, cité internationale peut-être, en lien avec l'actualité... Non, c'est pas ça non plus.
Moi, je préfère quand il y a des indices.
Ah, bah désolé, j'ai pas eu le temps d'en parler.
Ou alors, c'est quoi la mairie, l'hôtel du département?
Non, c'est pas politique, mairie, il faut suivre.
Voilà. La politique, ce sera tout à l'heure dans ta chronique, voyons.
Oui, c'est ça.
Parce que ta chronique déjà un peu tous les thèmes.
Qu'est-ce que ça pourrait être? Sur un musée, peut-être?
Non, mais ça pourrait être un musée. C'est plutôt une bibliothèque.
Le site de la bibliothèque municipale.
Exactement. Oh. Et oui. Et oui, aussi incroyable que ça puisse paraître, voilà, le groupe Anon Coders a piraté ce site. D'après le progrès, en fait, ils auraient déjà piraté une centaine de sites israéliens importants en y affichant un texte et des hashtags anti-Israël accompagnés de musique arabe. Allez, faisons pas de la demi-mesure. Mais alors, par contre, cette fois-ci, il s'agit vraiment d'une opération de petite ampleur. Ils ont juste piraté le site de la bibliothèque municipale de Lyon.
Moi, j'ai une hypothèse.
Vas-y, à mon ça nous intéresse, parce que moi, j'ai pas trop compris leur plan,
si.
Là.
Parce que vous savez que récemment, le site de la bibliothèque interuniversitaire Diderot a changé. Et donc, je suis sûre que ce sont les bibliothécaires de la bibliothèque Diderot de Lyon qui, par vengeance, pour se faire de la publicité...
Je pense qu'il y a une rivalité entre les bibliothèques lyonnaises.
Tout à fait.
En mettant des hashtags bon, justement, puisque Free Palestinia et...
On va hacker le site de la bibliothèque municipale, donc c'est une guerre entre bibliothèques, en fait. Il ne faut pas lui donner de l'ampleur internationale outre mesure.
D'accord, bon alors arrêtons d'en parler tout de suite, vraiment. Le temps d'une virgule et on revient avec une seconde question d'actualité. Back in the USSR des Beatles à l'instant sur Transistor. Alors, on n'est pas bien dans la République soviétique des gones. Bon, vous avez intérêt à être un peu plus performante quand même sur la deuxième question, sinon ce sera les grandes purges et le goulag.
Moi, je trouve qu'on a été assez performante quand même. Elle a écrit dans son script, j'espère que vous serez plus performante, comme si tu ne croyais même pas en nous, en fait.
Je crois pas du tout en vous, non, en effet. Je sais comment je suis performante, moi, quand il s'agit de répondre à des questions.
Mais c'est vrai que c'est surtout Florent qui trouve, donc forcément.
Alors, qu'est-ce qui revient à Lyon tous les ans et qui cette année a lieu du 13 au 17 mai pour sa 13e édition?
Ça doit être encore une biennale de quelque chose.
Ça peut pas être la fête du Muguet, ce sera déjà passé.
Alors, merci Florent était là, il dirait le festival de l'échangisme. Donc voilà, merci Florent.
Peut-être qu'on va enfin parler du festival de l'échangisme à Lyon quand même.
Non.
C'est encore culturel.
C'est encore culturel, oui.
Le salon de la bibliothèque municipale.
On a dit qu'on ne parlait plus des bibliothèques, Marie-Ève.
Qu'est-ce que c'est
un événement annuel.
C'est lié au théâtre, à la danse.
Pas au théâtre,
à la gastronomie.
Danse, à l'opéra.
Non, alors pas à l'opéra, mais c'est lié à la musique.
Ah.
Et alors ça se passera, c'est un événement annuel et ça se passera par exemple au marché de Gros, à la maison de la Confluence ou au Sucre.
Donc ce sera pas du classique, j'imagine.
Ce ne sera pas du classique.
Vu les lieux choisis.
Ce sont pas les lieux que tu fréquentes.
Non, pas du tout.
Alors non, voilà.
Tant que ça ne se passe pas dans un temple de toute manière.
Oui, de toute manière.
C'est quel genre de musique alors? Plutôt rock, pop, plutôt.
Plutôt de la musique qui plaira à Thomas, plutôt électro.
Plutôt électro, j'allais dire rap, mais bon, ça.
Je sais pas, il y a un festival de musique électro.
Oui. Moi, j'aimerais bien le nom du festival de musique électro.
Non, parce
que je viens de te donner comme indice que
c'est
un festival
Thomas,
de musique
pas
et que ce serait électro.
Non, mais on n'est pas adepte de la musique électronique.
Électro-Lyon,
nous, on écoute notre musique dans des temples, Marie, donc accepte-le.
Après l'électro-Lys, peut-être l'électro-Lyon. Non, ça marche pas.
Marie-Ève, fondeuse de festival.
Voilà, de créer des festivals.
Ah, pourtant, c'est quand même très connu, ça. Je veux dire, c'est même sans y aller, forcément. Moi non plus, j'y vais pas, mais c'est quand même un festival assez connu.
Électro-Lyon.
On arrête de deviner
tous les jeux de mots possibles et imaginables, c'est pas possible.
Bon, dites donc. Petit indice sonore.
Non, on va pas l'inventer, hein, Marie.
Vous n'allez pas l'inventer. Vous êtes terrible. Hein. Non, mais quand c'est Thomas, vous révisez à peu près. Hein. Pourquoi est-ce que moi vous ne respectez pas?
Parce qu'il nous fait peur avant les émissions. Il dit allez réviser sur le site Only Lyon.
Peut-être que notre invité a un indice à nous donner.
Aucun indice. Alors vous connaissez pas le festival des nuits sonores?
Oh, zut.
Ah, bah alors, donc c'est un festival qui met à l'honneur des musiques électroniques et indépendantes aussi.
Ah mais je sais pourquoi j'y ai pas pensé. Parce que chaque année ça m'énerve, parce que depuis mon quartier j'entends la boum 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 depuis
et
ma fenêtre et ça m'empêche de dormir.
Bah non,
j'ai occulté complètement. Parce
mais
que
comme
ça
quoi devenir prof de latin ça fait pas toi une vieille conne hein Marie-Ève, c'est bien.
Oui bah j'ai le quartier pour me garder en lien avec les jeunes et la musique actuelle.
Alors du coup ça sera un événement organisé par l'association Artifarty, on ne rigole pas, c'est très sérieux, c'est vraiment son nom. Et il y aura cette année un parcours dans Lyon avec des concerts à la Sucrière, au Sucre, au Marché de Gros, à la Maison des Confluences comme je le disais. Et avec une fréquentation qui est quand même en augmentation constante depuis 2003, c'est pour ça en fait Marie-Ève, si t'avais été là en 2003 ça aurait été supportable peut-être, mais l'année dernière avec 130 000 participants on comprend que ça fasse un peu de bruit.
Mais
à
au début
fenêtres,
j'aurais pu mater la rébellion mais là c'est fini.
Mater la rébellion, ah bah carrément. Oui d'abord, camarade fenote Marie-Ève a parlé hein.
Je viendrai avec mes armes latines,
c'est ça,
et grecques.
Du coup je présume que tu n'iras pas aux nuits sonores
si
les nuits sonores
avaient
lieu à la grille des nez.
C'est ça, alors, pendant festival latin grec, on serait venu avec des hoplites en fort.
Eh ben écoute, on te retrouve tout de suite, on retrouve aussi le camarade Romain du côté des vestiaires, et tu vas lui prêter ta voix. Et oui, c'est ça aussi la collectivisation, il va y avoir du sport.
Aujourd'hui, en l'absence de notre très regretté présentateur, la chronique décide de se lâcher et d'y aller franco. Pas de petits bras aujourd'hui.
Pas.
Ah oui, d'habitude c'est très modéré. Sportif lyonnais, tenez-vous bien, vous allez voir ce que vous allez voir. Mais que sera une omelette sans les œufs cassés? Les œufs cassés, ce sont eux, les footballeurs de l'Olympique lyonnais. Dans l'équation du foot rodanien, les garçons font largement baisser le niveau. Les filles, elles, on en a déjà parlé, sont assurées d'être championnes avec 20 victoires. Alors oui, vous allez me dire, ils sont quand même deuxièmes de la Ligue 1. Ils peuvent encore être champions. Ils jouent bien. Il y a des bons joueurs, oui, genre la Cazette. Et tu sais quoi, toi, le miné qui ne lit que les classements et les résultats des matchs en priant pour voir un jour Sedan en Ligue 1, tais-toi. Tu es tellement bête que tu pourrais écrire des banderoles avec les supporters racistes de l'Olympique lyonnais en croyant d'être engagé au Resto du Cœur. Mais Romain s'est vraiment lâché.
Romain, journaliste engagé et indépendant. Voilà.
Ça a déteint encore. Alors, l'OL est malade, comme beaucoup de gens autour de ce plateau aujourd'hui.
Je crois, oui.
Et toute la rédaction sport de Transistor a bossé, ce qui représente quand même une personne. Bref, aussi malade peut-être. Bref. La tension monte dans le groupe d'Hubert Fournier depuis le match nul face à Saint-Etienne.
Quelque chose est cassé. Certes, le niveau de jeu est retrouvé. Mais entre le poisson Gourcuff qui fait des siennes avec ses envies d'ailleurs, il faudrait déjà qu'un ailleurs veuille de lui et que les engueulades à l'entraînement, ça ne va pas fort. Si on y rajoute le retour de l'esthète Clément Grenier, qui prend la place d'un joueur majeur ayant explosé cette saison, un Ndié ou un Ferry, voire Fekir, une très mauvaise fin de saison attend donc les Lyonnais. Basket à présent avec l'ASVEL. Les Villeurbanais ont perdu. On n'oublie pas les bonnes vieilles habitudes.
Ah bah non.
Avec cette défaite 75-73 contre Cholet, les protégés de TP ne sont plus que 6e et glissent donc dangereusement vers la 8e place, dernière qualificative en vue des play-offs. Certes, ils peuvent le faire, mais ils ne doivent pas retomber dans leur vieux démon de début d'année. Ce même début d'année qui leur coûtera peut-être une meilleure place en play-off et qui réduira un peu plus leurs chances de titre. Et nous enchaînons avec le Loup. Ah ouh. Aujourd'hui, oui, nous sommes tristes. En effet, le Loup est quasiment sûr d'être relégué. Certes, nous les avons toujours blâmés pour leur niveau de jeu consternant. Certes, ils ont très peu de points. Mais au fond, je crois que la Terre est ronde pour une seule bonne raison. Parce qu'après avoir fait le tour du top 14, tout ce qu'ils veulent, c'est être en pro D2. Alors c'était merci de m'avoir fait découvrir Orelsan, Romain. Je te suis très reconnaissante, même si je n'arrive pas encore très bien à l'imiter.
Orelsan sur 30.
Je ne sais pas si Mathilde connaît mieux Orelsan et la Terre est ronde que moi.
Ah oui, j'adore cette chanson, mais je ne la chanterai pas.
Oh, dommage. Et le clin d'œil de Romain est américain aujourd'hui. En effet, le fameux joueur de NBA LeBron James, sous contrat avec McDonald's, a avoué que lorsqu'il était plus jeune, il y mangeait presque tous les jours et était alors en mauvaise santé. Peu après cette interview, il s'est vite repris, après coup de fil de Ronald sûrement, en disant qu'il y mangeait toujours très souvent et a exhibé ses abdos pour montrer que le McDo ne fait pas grossir. Merci LeBron. C'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais vous retrouverez très vite Romain pour une nouvelle chronique sportive. Et d'ici là, n'oubliez pas, lavez-vous après le sport, sinon vous sentirez... le cormoran.
Bon, dites donc à la régie. Qui a envie de se balader dans Lyon, chers auditeurs? Réponse tout le monde autour de cette table. Je le vois dans vos yeux ravis d'être là aujourd'hui, dans
oui,
ce studio
ce
démocratique.
Temps.
Voilà. La nomenclatura des gones va vous confier ses bons plans sortis, mais avant cela, il vous faut passer par les cuisines et voir Marie-Ève, la partageuse, son couteau entre les dents. Évidemment, j'aurais préféré qu'elle nous parle de la recette bien rouge du communard, cet apéritif lyonnais traditionnel, mais à la place, nous causerons d'un chef lyonnais, si j'ai bien compris.
Alors je vous préviens tout de suite, chers auditeurs, chère Marie, tu me donneras ton aval pour cette chronique. Thomas a dit que j'étais devenue une maïté encartée. Donc me permets-tu encore de dire ma chronique gastronomique aujourd'hui ?
Je te le permets, Thomas Tomajevitch sera fusillé.
Pour paix à son âme, j'essaierai de le sauver en dernier recours. Je te promets, Thomas, que je donnerai mon veto, mais bon. En attendant, nous quittons les plats, puisque j'ai assez mis les pieds dedans, pour les chefs plus ou moins toqués, effectivement, qui ont marqué la gastronomie lyonnaise. Mais pour commencer, hélas Marie, je déçois tes espérances, j'aimerais d'abord rendre un hommage, non pas à un chef cuisinier, mais à un fin gourmet. À celui qui a donné à Lyon ses premières lettres de noblesse en matière culinaire. Il a même fait de notre capitale des Gaules la capitale du bien manger. Et, détrompez-vous, il ne s'agit pas du célèbre Brillat Savarin, non, non, non. Il s'agit de Joseph Berchou. Alors déjà, je l'aime bien à cause de son nom, hein, sans se prendre le
c'est
chou,
mignon.
Berchou, hein, vous comprendrez. Ou Joseph de Berchou. Mais comme il a vécu au moment de la Révolution française, il n'a jamais trop osé se servir de sa particule. Il est né vers 1760 ou 1765, les érudits ne sont pas d'accord entre eux, à Lay en la Maison de la Forêt. Et il était fils de François de Berchou, avocat au Parlement de Lyon, et de Philiberte de Chavannes, femme au foyer. Il fait ses études chez les oratoriens de Lyon, puis part à Paris, et c'est là que la Révolution éclate. Je te remplace également pour la chronique histoire. Il retourne dans la Loire et devient juge de paix, mais il est menacé à cause de ses origines et se réfugie dans le service militaire pendant la Terreur en étant enrôlé dans le Sud. Juste après cette période, il revient régulièrement dans la Loire pour se retrouver avec ses amis de sa condition et pour faire un peu de littérature. C'est donc là qu'il commence à écrire. D'abord sous le pseudonyme très saillant de Nacon, le nom d'un hameau du coin, et plus tard sous le pseudonyme de Musard.
Et sinon, on revient à la gastronomie.
Oui, ça arrive. Mais d'abord, je veux pousser mon petit coup de gueule.
Vas-y.
Alors, c'est à ses débuts qu'il signe une lettre boutade contre les anciens, qui, je pense, réjouirait fort notre ministre de l'Éducation nationale. Qui nous délivrera des Grecs et des Romains? Du sein de leurs tombeaux, ces peuples inhumains feront assurément le malheur de ma vie. Mais bon. Attention, je déçois tout de suite les espoirs de Madame la Ministre. Ce libelle était destiné aux membres du directoire, et non pas explicitement aux Grecs et aux Latins. Le poétique satiriste devient ensuite poétique gourmet, selon l'expression de Blois, pour qualifier Joseph Berchoux. Et en 1800 ou 1801, il fait publier son grand recueil intitulé « La gastronomie » ou « L'homme des champs à table », qui en fait est une suite de l'ouvrage de l'abbé de Lille « L'homme des champs ». C'est un poème en quatre chants, cette fois-ci C-H-A-N-T-S, intitulé « Histoire de la cuisine des anciens, premier service, second service et puis dessert ». Chaque chant est annoté par l'auteur lui-même pour préciser qui sont les faits et personnages évoqués. C'est donc une sorte de poème gastronomique savant. Alors dans ce poème, il y a beaucoup d'anecdotes croustillantes, de sous-entendus que je vous laisserai découvrir vous-même, n'est-ce pas Mathilde? Je sens qu'elle a déjà très envie de lire cet ouvrage.
C'est du petit, je le précise pour vous, chers
auditeurs. Mais il y a aussi beaucoup de références aux gastronomes anciens, que dis-je, antiques, grecs et latins. Et oui, on ne peut faire table rase de leur cuisine et a fortiori de leur langue. Bref, je m'arrête.
Là, ce sont les yeux de Mariette qui pétillent vraiment très très fort.
Berchoux fait donc entrer en scène Ulysse, Marc-Antoine, Apicius, le célèbre gastronome latin, en les mélangeant savoureusement. Il fait quelques vers bien sentis sur les empereurs romains. Claude, faible héritier du pouvoir des Nérons, préférait à la gloire un plat de champignons. Caligula fit faire un repas sans égal pour son incitatus, un très illustre cheval. Et d'inviter à lire Plutarque, Pétrone, Martial pour plus de précisions culinaires. Et bien sûr, Berchoux fait aussi un hommage à Lucullus. Il précise lui-même qu'il est saisi d'un saint respect devant Lucullus. Non pas devant le général d'armée combattant les rois Mithridate et Tigrane, mais devant ses soupers, et parce que l'Europe lui doit ses premières cerises. À présent que j'ai réglé mon compte avec les réformes en cours, revenons à mon sujet principal, la gastronomie lyonnaise.
Oui.
Car c'est dans ce fameux livre « La gastronomie » qu'on trouve un vibrant hommage à la cuisine lyonnaise, le premier du genre. Le voici. « Voulez-vous réussir dans l'art que je professe? Ayez un bon château dans l'Auvergne ou la Bresse. » Ou plutôt près de lieux où Lyon voit passer deux fleuves amoureux tout prêts à s'embrasser. Vous vous procurerez sous ce ciel favorable tout ce qui peut servir aux douceurs de la table. Berchoux est donc non seulement le premier à avoir donné au mot gastronomie un rayonnement mondial, mais aussi avoir fait profiter à la gastronomie lyonnaise de ce même rayonnement mondial. Mais rappelons l'essentiel pour finir et laissons-lui donc le mot de la fin. Un poème jamais ne valut un dîner.
Merci Marie-Ève pour ce grand moment de poésie, c'était beau. Sur Transistor, je me retourne maintenant vers les camarades dignes de confiance du parti. Où est-ce que vous allez sortir dans Lyon dans les jours qui viennent, Mathilde?
Moi, je voudrais préciser que malgré la Révolution, on est resté très intègre chez les Gones. Alors, c'est absolument pas par pression de nos partenaires que je vous conseille d'aller passer une soirée au Comédia, et puis d'aller manger au Ninkasi juste après, parce que c'est vraiment super.
On sent que tu parles d'expérience, voilà. une expérience très proche dans le temps en plus.
Allez-y.
Et toi, Marie-Ève?
Bon, alors moi aussi, je suis devenue communiste, alors je veux partager avec mes camarades une indication de sortie très précieuse. Alors, je vous invite à aller à la maison du don de Lyon. Oui, oui, le don du sang même. Partagez votre sang entre vous, camarades.
En fait, t'arrives à rendre glauque un bel acte citoyen, t'arrives à le rendre complètement glauque.
Mais tout à fait, non, mais c'est très important. J'ai reçu un tract l'autre jour dans la rue et qui s'intitulait donc « Le don du sang, c'est toute l'année qu'il faut y penser ». Alors, je vous donne l'adresse, c'est le 3 cours Charlemagne dans le 2e arrondissement. C'est la maison du don, donc de sang de Lyon Confluence, qui est ouvert les lundis, mardis et vendredis de 8h à 15h30, le mercredi de 8h à 18h, le jeudi de 8h à 18h, avec un dessert gourmand à la clé. Donc,
il fallait commencer par là, Marie.
Et le samedi de 9h à 12h30 et je vous invite après au repas si vous y allez.
D'accord, donc si on résume les plans sortis de la semaine, il y a donc Mathilde qui n'a rien et Marie-Ève qui vous suggère d'aller vraiment vous fondre la poire en allant donner votre sang, ce qui est très bien, c'est un très beau geste de citoyen. Par contre, je suis pas sûre que ce soit particulièrement l'éclate, mais bon, admettons, pourquoi
on
pas.
On pourrait en faire une sortie de gonne, en fait, on y va tous ensemble.
Ah ouais, on va tous donner notre sang, tous ensemble.
Bah ouais.
Oui, on est communistes. Alors moi, je vais rajouter un plan sortie. Honnêtement, je sais plus si je l'ai déjà fait dans les gonnes ou pas. Je vous suggère d'aller aux poupées russes, voilà, je trouve que c'est parfaitement dans le thème. C'est un bar.
Ah oui, non, si tu commences à faire tous les bars.
Mais oui, mais attends, les poupées russes, c'est quand même le bar qui est à côté des terreaux. Avec
et puis
qui est
dans le thème.
Qui est quand même intégralement rouge, avec une déco stalinienne à l'étage et tsariste au rez-de-chaussée. Voilà, et la vodka y est bonne. Donc je vous suggère les poupées russes, chers auditeurs.
Alors, merci. Est-ce que, comme dans le documentaire sur la Pologne que j'ai vu hier soir sur YouTube, il y a un chantier de vodka dans ce bar, j'imagine le mur du fond tapissé.
Oui, c'est ça. Voilà.
Complètement tapissé de
exactement.
Vodka.
Et sur YouTube, vraiment. Genre, tu es tombé sur un reportage sur la Pologne parfaitement fortuitement sur YouTube. Comme ça. Il est venu à ta rencontre, Marie-Ève.
Alors, j'ai cherché, à vrai dire, des idées pour ma chronique d'aujourd'hui.
Oui,
et puis, je suis tombée sur des chroniques féministes, enfin très féminines plutôt que féministes, après tout, d'une certaine Natou, qui après faisait les chroniques de ses voyages, dont un voyage en Pologne.
D'accord,
qui
est parti
très loin
sur YouTube.
T'as vraiment dérivé.
J'ai dérivé, tout à fait.
D'accord, mais Marie-Ève.
J'ai écrit ma chronique.
Marie-Ève regarde Natou sur YouTube. Bah, très bien, écoute. Eh bien, merci pour ce plan quinquennal de sortie, n'est-ce pas? Je pense qu'avec les dons du sang de Marie-Ève, vous avez de quoi faire dans Lyon, chers auditeurs, vraiment. Et alors, si vous cherchez un plan quinquennal d'engagement, vous pouvez toujours adhérer au parti, à une association, n'est-ce pas? Et on en parle tout de suite après un jingle. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, nous recevons l'association locale UFC Que Choisir Rhône. Portrait de l'association en chiffres d'abord, avant de commencer l'interview, parce que nous aimons beaucoup les chiffres dans ma dictature.
Date de fondation, 14 novembre 1975, à Lyon. Nombre d'adhérents, 5200 environ. Budget annuel, 190 808 euros.
Très exactement, ça fait rêver quand même. Hein. Merci Mathilde. Et tout ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Michel Boutard, son président, qui nous recevons aujourd'hui. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, pour commencer, l'UFC Que Choisir, c'est une association qui est plutôt connue, plutôt bien connue en France. Mais à quoi sert-elle exactement et quelles sont les missions qu'elle se donne?
Alors, peut-être un petit rétropédalage.
Allons-y.
Notre association s'appelle UFC Que Choisir Lyon, Métropole et Rhône.
D'accord.
Donc on s'est mis au goût du jour. Voilà. Hein,
c'est
donc,
ça. Métropole, big up à toi Clément.
Voilà, c'est ça. Et puis notre association a été créée aussi par quelqu'un bien dans la tonalité de votre émission. C'était un dénommé Pierre Blatt, bien connu à Lyon, n'est-ce pas? Vous l'avez connu certainement, peut-être pas vous, mais bien connu. Parce qu'il s'est occupé en fait des guignols. Les guignols, en fait, il était président de l'association qui gère cette activité lyonnaise.
Alors,
voilà.
Comment passons des guignols à
Alors, j'aurais aimé le rencontrer, mais vous savez, ça s'est passé un peu comme au temps de la révolution russe. Parce qu'il est resté président pendant quelques temps, puis après, ils l'ont viré.
D'accord.
Voilà, pas de reconnaissance. Voilà. Bien, alors ça sert à quoi une association de consommateurs?
Oui.
Comment dirais-je? Ça sert d'abord à fournir de l'information aux gens qui ont des préoccupations de nature consumériste. Voilà. On donne ces informations via le téléphone, on reçoit 13 000 appels téléphoniques par an. Si vous voulez des chiffres, je vais vous en donner. Voilà.
On reçoit
2 000 lettres ou courriels par an. Voilà. Donc, c'est des gens qui ont un souci, qui nous disent papati, patala. Voilà.
D'accord.
Qu'est-ce que
donc,
je dois
répondre
faire?
Répondre aux interrogations
voilà.
Des
répondre
consommateurs.
Répondre aux interrogations, c'est ça. Il y a 4 000 personnes qui viennent nous voir aussi tous les ans. Premier point. Deuxièmement, on mène des enquêtes de tarifaires dans les grandes surfaces une fois par an, des enquêtes de pratiques des professionnels en matière de consommation. On va dans les banques, on voit des clients mystères, Hein, voilà, puis on regarde comment ils réagissent, etc. Puis on en tire des conclusions qui sont généralement pas des plus fameuses pour les professionnels. Alors je parlais des banques, mais pas les banques, les assurances, les compagnies de pompes funèbres, les vendeurs de télévision, et patati et patala.
J'en passe,
tout le monde y passe, on emmène 7 ou 8 par an. Et puis, enfin, et ça c'est simplement réservé à nos adhérents, on assiste nos adhérents pour faire avancer les difficultés qu'ils rencontrent spécifiques sur tel ou tel problème, qui mon téléphone ne marche pas, mon abonnement me fait payer 3 fois plus cher, qui ma télévision qui devait faire papa-maman malheureusement est toute noire, j'ai acheté sur internet, on m'a dit que je pouvais effectivement renoncer à mon achat, j'y arrive pas, mon loyer il augmente, et puis ben, est-ce que c'est bien correct, etc. Tout un tas de domaines, et les gens viennent nous voir et on reçoit à peu près 1500, on traite à peu près 1500 litiges par an.
D'accord. Et alors vous avez une devise en 3 mots, expert, indépendant, militant. J'aimerais bien qu'on revienne sur chacun de ces termes. Alors pourquoi expert déjà pour commencer ?
Alors, pourquoi expert ? Alors, on est expert dans le domaine qui est le nôtre, dans le domaine de la consommation, mais nous ne sommes pas des experts techniques. Nous sommes des... moi, je ne peux pas vous dire pourquoi ou c'est normal qu'une courroie de distribution de votre voiture, elle se casse à 40 000 km. Ce n'est pas normal, bien évidemment. Mais moi, je ne pourrais pas vous expliquer pour quelles raisons en tant qu'association. Par contre, est-ce que c'est un vice caché ou pas ? Et là, éventuellement, on pourra aider la personne qui est face à cette situation à orienter son action dans ce domaine. Donc, on est plutôt des sachants, mais des sachants pas techniques, des sachants dans le domaine du droit, de la jurisprudence. C'est en ce sens que nous sommes des experts.
D'accord. Alors, le deuxième mot, indépendant. Pourquoi indépendant ?
Ah bah, pourquoi indépendant ? Parce que ça, c'est la devise même, je dirais, de toutes les associations de consommateurs. On est indépendant des professionnels. Donc, je ne reçois aucune subvention, quelle qu'elle soit, pas de subvention non plus des collectivités locales. Ce n'est pas le cas de toutes les associations de consommateurs, mais c'est le cas de la nôtre. Donc, pas de subvention du tout, on est totalement indépendant. Donc, ça nous permet d'avoir notre franc-parler et dire ce que l'on pense sur les produits, sur les prestations, sur tout. Voilà.
D'accord. Et on en vient au troisième mot, militant.
Militant, parce que tout compte fait, on se fait... on ne se satisfait pas simplement de regarder ce qui se passe. On veut faire avancer les choses. Dans les domaines pour que les consommateurs aient plus de droits, soient mieux protégés.
Alors à propos de faire avancer les choses, justement, donc vous parliez de la triple mission, informer, enquêter et régler les cas de litige. Pourquoi est-ce que c'était une association de régler les litiges plutôt que la justice ?
Alors ça, il vaut mieux régler les litiges à l'amiable. Il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès.
C'est
ensuite,
phrase qu'on méditera, oui.
N'est-ce pas ? Non, vous n'êtes pas d'accord avec moi ? Si.
Voilà. Complètement.
Totalement. Bon, ensuite, la justice est totalement engorgée. Et enfin, les litiges qu'on a à connaître dans les associations, ce sont des litiges qui, généralement, n'ont pas des enjeux financiers des plus importants. C'est toujours l'importance, c'est toujours relatif. On peut dire que chez nous, voilà, c'est quelques centaines d'euros. Alors c'est pas rien, mais néanmoins, vu du côté de la justice, franchement, voilà, on a mieux à faire que de s'occuper de ça. Et puis on traite des litiges dont les enjeux sont de quelques euros, des choses comme ça. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres enjeux financiers de 20 000, 30 000 euros, mais c'est beaucoup plus rare.
D'accord. Et donc, c'est important, en fait, une victoire d'un euro, ne serait-ce que d'un euro, vraiment.
Absolument, absolument. C'est très, très, très important. Alors, les gens qui viennent nous voir pour un euro, généralement, ils en font une affaire de principe. Alors, il y a deux situations. Il y a ceux qui en font une affaire de principe, et puis ceux pour lesquels ils ne se sont pas aperçus qu'ils se font gruger depuis la nuit des temps sur un euro par mois, et puis ils viennent nous voir pour autre chose, mais on leur dit, dites donc, ça, c'est pas normal que vous continuez à payer un euro par mois. Il ne faut pas que je tape sur la table. Voilà, excusez-moi.
On est en dictature, on ne tape pas sur
la
table.
C'est la dictature, là. C'est les chars russes qui arrivent, voilà. Les chars de l'impérialisme, les professionnels que vous m'envoyez, voilà. Voilà,
c'est ça, exactement. Et alors, vous avez l'impression vraiment de changer concrètement le quotidien des gens, du coup, qui viennent vous voir.
Les gens qui viennent nous voir, c'est ça. Changer le quotidien, du moins, on les aide à faire aboutir les difficultés qu'elles rencontrent. Alors, ils n'ont pas toujours raison, parce que les consommateurs, ils ont des droits, mais ils ont aussi des devoirs. Et donc, généralement, on connaît plutôt ses droits, et pas toujours ses devoirs. Donc, le consommateur, c'est comme vous et moi, bah, voilà, de temps en temps, ils se plantent. Ils pensent qu'ils ont des droits, ils n'ont pas le cas. Donc, il y a à peu près entre un quart, un petit quart des personnes qui viennent nous voir, en fait, ils se plantent totalement. Ils n'ont pas de droit. Voilà. Mais pour les autres, ben voilà, on fait avancer à l'amiable hein, leur situation, et les gens nous en sont généralement reconnaissants. Alors il y en a qui ne sont pas reconnaissants du tout. C'est quand effectivement on commence par leur dire, ben non, pour vous, de toute manière, ça n'aboutira pas. Hein, et ceux-là, ils sont pas contents, mais ça, c'est naturel. Hein, voilà.
Alors admettons concrètement que j'ai un litige à régler, que je sois vraiment, je viens vérifier auprès de vous. C'est bon, c'est moi qui suis dans mon droit et j'ai raison vraiment. Que fait concrètement l'UFC Que Choisir? Quels sont ses moyens d'action?
Ah ben, d'abord, ça va commencer par quelque chose qui va vous faire plaisir. On va vous demander 30 euros.
Il faut adhérer.
Il faut adhérer.
D'accord.
Alors, pourquoi faut-il adhérer? Simplement parce que la loi le dit. Et quelle loi le dit? C'est la loi qui protège la profession des avocats. Donc, il y a une loi de 71, remodelée X fois depuis 1971, mais ces dispositions-là de l'article 63 n'ont pas changé, hein, qui dit que les conseils juridiques sont réservés aux avocats, quelques autres professions juridiques, mais les avocats pour faire simple. Et il y a quelques exceptions, et notamment les associations de consommateurs pour les problématiques de consommation à l'égard de leurs adhérents. Donc si la personne n'adhère pas, on n'a pas le droit de l'assister, on n'a pas le droit de l'aider. Voilà. Et on est attentif à ça, parce qu'on a eu quelques petits ennuis, pas tellement dans la région lyonnaise, mais ailleurs, donc on est plutôt attentif. Donc ça vous coûtera d'abord 30 euros. Voilà. Alors, pour ce prix-là...
Une fois que j'ai payé.
Alors... Une fois que vous avez payé... Alors, vous êtes étudiante, non, ça vous coûtera simplement 20 euros, pardon.
Quelle générosité, c'est ça. C'est bon, je suis encartée, j'ai payé ma 20 euros.
Eh bien, on va examiner votre dossier, votre contrat, vos factures, vos lettres, les échanges que vous avez eus, les mails, etc. On va se faire une appréciation, vous avez tort, vous avez raison. On présuppose que vous avez raison. Donc là, il y a plusieurs stratégies. Ça dépend aussi du montant hein, du problème. On peut téléphoner. Il y a des boîtes avec lesquelles ça marche bien. Généralement, d'abord, c'est assez intéressant parce que les gens qui viennent nous voir n'ont pas forcément tous les documents, ils nous racontent leur vie. C'est leur vie. Par contre, entendre le professionnel, parfois, ce n'est pas la même vie. Hein. Ils n'ont pas la même vision des choses, donc ça permet d'avoir d'autres informations. Donc, on peut téléphoner, on peut écrire une lettre, un fax, un mail. Voilà. Il faut savoir que, par exemple, dans certaines sociétés, on met à notre disposition... des mails dédiés, des adresses mails dédiées, et donc on dialogue avec eux comme ça, c'est beaucoup plus efficient. Voilà. On peut envoyer à certains stades aussi des lettres recommandées avec une petite réception en disant on vous met en demeure de faire ça, patati, c'est les charcoules qui arrivent. Il faut, désolé, on vous met en demeure effectivement. Voilà. Quand tout ça, ça n'aboutit pas, on peut faire appel à des médiateurs ou à des conciliateurs. Les conciliateurs de justice, ça ne marche pas très bien, il ne faut pas le dire, mais ça ne marche pas toujours très bien. Les médiateurs, ça marche plutôt assez bien, généralement. Donc, ces médiateurs sont généralement mis en place par les structures professionnelles des professionnels. Donc, il y a des médiateurs bancaires, des médiateurs d'assurance, des médiateurs de l'énergie. Lui, il dépend de l'État. Donc, ça marche très bien avec lui. Sauf que il est comme tous les fonctionnaires, bon, il n'arrive pas à répondre rapidement, mais ça marche bien. Voilà. Voilà. Et donc, on fait appel à eux. Il y a aussi des structures de concertation locale dans le domaine du logement. Par exemple, il y a une commission départementale de conciliation. On peut faire appel, etc. Généralement, ça aboutit. Puis quand ça n'aboutit pas, eh bien, on conseille à la personne de frapper à la porte de la justice.
D'accord.
Il n'y a pas de raison de s'arrêter là. Vous êtes dans votre droit, alors peut-être pas pour un euro, hein, mais à partir d'une centaine d'euros, vous allez voir la justice. Et donc là, on les aide à établir le dossier lorsqu'il n'y a pas la nécessité d'être défendu par un avocat. Il faut savoir que les règles actuelles, c'est pour être défendu par un avocat, c'est au-dessus lorsque le litige porte sur des sommes supérieures à 10 000 euros.
D'accord.
En dessous, ce n'est pas nécessaire.
Ok. Alors, il y a une nouveauté légale, je crois, dont vous bénéficiez maintenant, qui a vu le jour assez récemment, qui donne quand même un pouvoir nouveau à votre association, c'est l'action de groupe. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est?
Oui. Alors, l'action de groupe, c'est effectivement un nouveau dispositif réglementaire qui est apparu dans notre paysage avec effet au 1er octobre de l'année dernière. Donc, c'est des choses qui existent déjà aux USA, et dans les pays anglo-saxons d'une façon générale, voire même dans d'autres pays. Et donc, c'est le fait pour une association agréée de consommateurs de porter un problème auprès du juge pour qu'il l'agrée. C'est-à-dire, on va voir le juge en lui disant, ben voilà, cette société, elle a des mauvaises pratiques. On vous en apporte la preuve. Et monsieur le juge, admettez-le et autorisez-nous après à faire un appel auprès de la population de façon que tous les gens qui ont la même problématique se regroupent autour de nous.
Pour les clients qui n'existent pas encore, en fait.
Voilà, ils n'existent pas.
Merci Michel Boutard. Alors, le temps d'une virgule et on revient ensuite sur l'aspect plus personnel de votre engagement associatif.
On cache les galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait 4 bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables. On veut des baleines et du thon.
Trio à l'instant sur Transistor, une chanson sur la consommation aussi, c'était Greenwashing. Alors le tsarevitch Thomas a l'habitude de conclure ses entretiens par deux questions rituelles et je me conformerai à cette tradition tsariste moi aussi.
Moi je ne sais pas si je suis obligé.
Vous n'êtes pas obligé en effet, si vous le permettez seulement. Michel Boutard, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association-là et pas une autre?
Ah voilà, ça c'est les hasards de la vie. Je n'ai jamais milité pendant toute ma vie professionnelle et donc je suis arrivé à l'âge canonique de la retraite et qu'on m'a viré de là où je travaillais, parce que je voulais continuer à travailler. Hein. Mais c'est comme ça, il faut bien faire de la place aux jeunes, au demeurant, c'est tout à fait naturel. Fermons la parenthèse. Donc je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester dans ma maison, entre quatre murs, faire mon jardin, ma pelouse, etc. Mes petits-enfants de temps en temps, mon épouse assez souvent, encore qu'elle-même a des engagements associatifs. Alors donc, voilà, n'en parlons pas. Hein. Et donc, ben voilà, j'ai cherché qu'est-ce que je pourrais faire. J'ai frappé à quelques portes. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, ben tiens, t'as pas vu dans le progrès, il y a UFC que choisir qui recrute des bénévoles.
Et voilà.
Et
on se fait traquenarder et on se retrouve président.
Je suis allé voir, j'ai eu un entretien d'embauche, un deuxième entretien d'embauche. Ils ont attendu un mois pour me faire mariner, pour savoir si je voulais vraiment bien rentrer dans l'association. Au bout d'un mois, ils m'ont embauché et puis voilà, c'est parti comme ça.
D'accord.
Ce sont les aléas, c'est le hasard. Mais néanmoins, j'avais quand même une sensibilité consommériste de longue date.
Et alors, si vous deviez définir l'engagement associatif en quelques mots, qu'est-ce que vous emploieriez ?
Quelques mots. Moi, je crois que c'est pour rendre service aux autres. On est un petit peu des sachants. On a un peu la chance d'avoir bourlingué dans notre vie professionnelle, d'avoir été confronté à un certain nombre de choses. Il y a d'autres personnes, ça passe. Ils n'ont pas eu ce cursus. Ils ont certainement des besoins. Ils ne peuvent pas toujours les exprimer correctement par écrit. Tout simplement. La justice fait peur et en tout état de cause, la justice vous retoque dès lors que les enjeux sont faibles. Et donc, moi, je me satisfais de pouvoir aider un certain nombre de nos concitoyens qui sont dans ce spectre.
D'accord. Alors, rendre service aux autres, c'est vraiment ce qu'on retiendra. Merci à vous, Michel Boutard. Je vous laisse entre les mains de la camarade fenote toujours présente qui est Mathilde. Nous ne sommes pas dans un procès stalinien. J'espère qu'elle ne sera pas trop méchante avec vous.
Jean-Pierre ? Je vais répéter la question.
Si tu devais te comparer à une vedette de cinéma, à qui est-ce que tu te comparerais-tu ?
Je vous demande de vous arrêter.
When do you get to that point of enough is enough?
Never.
Oui, alors, moi, ce que j'ai vraiment retenu de cette interview, c'est déjà votre indépendance et le fait que vous souhaitiez rendre service aux autres. Alors moi, ma question, elle porte sur ces fameuses actions de groupe parce que j'ai découvert un peu en me renseignant sur la question que vous ne les acceptiez pas toujours, en fait, et que pour mener une certaine action de groupe, on va parfois devoir mettre en confrontation plusieurs associations de consommateurs pour savoir qui veut réellement soutenir le projet. Donc si votre but, c'est réellement de l'indépendance et rendre service aux autres, pourquoi accepter un projet et pas un autre? Et quels sont les rapports avec les autres associations de consommateurs, finalement, si vous êtes parfois en concurrence sur des actions?
Alors, d'abord, ça coûte très cher. Il faut avoir les reins solides pour mener une action groupe. Mmh. Entre le moment où vous allez l'engager et le moment où elle va aboutir, il va s'écouler, compte tenu des procédures d'appel, etc., il va s'écouler entre 5 et 10 ans. Mmh. Il faut payer des avocats. Ces avocats auxquels on fait appel... Voilà, ils se rémunèrent bien. Hein, voilà. C'est donc des engagements financiers très très forts. Certes, si l'action de groupe aboutit, Le juge mettra tout ou partie des frais que nous avons engagés à la charge du professionnel. Mais les juges sont un peu pingres. On constate que généralement, on ne rentre pas dans nos frais. Et donc, on est obligé de sélectionner. On ne peut pas tout faire.
Quel est l'intérêt, finalement, si c'est si risqué et si cher pour vous, quel est l'intérêt de mener ces actions? Est-ce que c'est pour peut-être faire connaître votre association
là? Non, pas du tout. C'est parce qu'on a mené une action de groupe. Là, on a engagé une seule pour l'instant. D'ailleurs, les associations de consommateurs, il y en a 15 qui sont agréées à l'échelon national pour mener des actions de groupe, éventuellement. Il y en a 5 qui en ont engagé. On considère que 10 autres, elles n'ont pas les reins suffisamment solides pour le faire. Chacune en a engagé à peu près une seule action de groupe. Nous, ça touche à peu près, on estime 300 à 500 000 Français. Dans 5 ans, on va faire appel à eux. Alors déjà, il faudra qu'ils aient les factures, il faudra qu'ils aient toutes les justifications. Voilà. Et donc, on ne va pas attendre 5 ans pour engager la prochaine action de groupe. On va en engager certainement une autre cette année. On sait à peu près dans quel domaine. Mais on ne peut pas le faire à un rythme très, très, très soutenu. Alors pourquoi on a pris celle-là plutôt qu'une autre? Tout simplement parce que il nous revenait de la part de nos adhérents beaucoup de préoccupations sur la thématique sur laquelle on a engagé l'action de groupe. La thématique, c'était en fait contre Foncia, il faut le dire, et contre ces pratiques à l'égard des locataires qui visent à leur faire payer des frais indus. Voilà. C'est ce domaine-là que nous avons choisi. Ça
parce
sera autre
que
chose.
C'était ce que les adhérents...
Les adhérents, majoritairement, nous ont orientés vers ça.
D'accord.
Mais on ne pourra pas tout faire.
Merci Michel Boutard. Alors je rappelle le site de votre association, ufc-rhonalpes.org. Chers auditeurs, c'est la fin de l'histoire, enfin je voulais dire de l'émission. Merci à vous de nous avoir suivis, d'adhérer au GON d'épisode en épisode. Merci à Clément pour les jingles et à Léo à la technique, toujours aussi performant, cœur, toujours fidèle à la technique, toujours encarté. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain numéro. Peut-être même que Thomas sera revenu aux manettes de l'émission, si ma grande clémence et ma grande mansuétude le permettent. Exactement, s'il arrive à sortir du goulag. Je vous embrasse et d'ici là, surtout, n'oubliez pas, dans Lyon, faites des gonneries.